Beaucoup de livres à voir en tout genre sont à admirer jusqu'au 26 avril à l'Hôtel de Guines et à la médiathèque d'Arras pour cette 10e biennale du livre d'artiste organisée par les ateliers de la Halle et qui a été inaugurée samedi 4 avril. Plus de 60 artistes de nationalités différentes font découvrir leurs œuvres aux techniques et aux thèmes très variés. Lors de l'inauguration, 3 prix ont été remis, dont le prix spécial du jury décerné à Cyprienne Kemp, artiste lilloise. Entretien avec la lauréate, on évoque avec elle bien évidemment le livre d'artiste, mais aussi son travail et sa technique.
Cyprienne Kemp, vous avez reçu le prix spécial du jury donc pour votre travail Morphose. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce concept ?
En fait, avec une amie, Nadège Moyard, on s'était mis une contrainte qui était de travailler à partir du poème de Jacques Roubaud. C'est le poème de Vers à soie, donc qui est un peu une forme cyclique de comment le ver à soie naît, ensuite comment il mange, les grâces du mûrier, etc. Enfin, il y a tout ce processus en fait, qui va lui-même ensuite nourrir le fil, enfin donner le fil, donner la robe, la femme qui meurt, qui est enterrée avec. Et en fait, il y a tout ce processus de ce cycle, cette femme qui donne la nourriture au ver. Enfin bref, j'ai réinterprété un peu le texte. Ce cycle m'intéressait, en fait, il y avait une forme humoristique de qui donne, qui donne, qui reprend, etc. Et le système de verre à soie me plaisait beaucoup. Et j'avais préparé du papier, enfin j'avais fait du papier avec une autre personne, Claudine Latron. Et j'ai voulu prendre ce papier, et ce papier qui pouvait être bruyant ou pas intervenait aussi dans le processus créatif. Alors, il faut savoir que j'ai plutôt écrit, en fait, j'ai brodé en fait, le texte au fil de soie, dans des couleurs assez naturelles. Et ensuite, il y a tout un travail aussi avec la feuille qui va être silencieuse, la feuille de papier qui est silencieuse ou qui est bruyante pour un peu, lorsqu'on manipule, faire en même temps le déchiquement des vers qui mangent la feuille. Il y a un essai en fait aussi dans le livre de se retrouver, lorsqu'on a la fin, de revenir à la première page, comme le poème qui est un moment cyclique. Et le principe était de prendre des matières naturelles aussi, comme la couverture, c'est l'écorce du mûrier, vraiment l'écorce. Brut pour avoir ce côté nature.
Et ben alors du coup, comme vous travaillez avec du fil de soie, où est-ce que vous le procurez ? Est-ce que vous faites un élevage en particulier ?
Oui, oui.
Ah bah faut nous en dire plus.
Dans ma salle de bain. Non. Il y a, en fait, recherche sur internet. Le truc c'était de savoir. Le plus difficile avec le poème, c'était par quel angle j'allais attaquer ça, comment j'allais me réapproprier, parce que je voulais pas reproduire le texte tel quel. Même si c'est plus ou moins le cas, à un moment donné, on ne sait même plus lire en fait, le texte. Qu'est-ce que j'allais apporter à ça aussi, enfin, dès qu'on a l'idée, on cherche. On cherche sur Internet où on peut se procurer les matières spéciales. Et à un moment donné, on trouve. Et parfois, lors de la recherche, par exemple, je ne savais pas qu'il existait des feuilles d'écorce de mûrier. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut pour ma couverture. Donc en fait, l'idée amorce une recherche et la recherche amorce une autre idée aussi.
Quelles sont les principales difficultés de travailler avec ce genre de matière ?
Déjà la patience. Quand on brode les textes, ça peut être très long. Parce qu'il y avait une recherche typographique aussi. Lorsqu'on brode, le papier n'est pas forcément été créé pour ça, donc il peut avoir des déchirures, mais j'accepte la déchirure, ça peut faire partie du processus. Et l'écorce, il y a les tests. En fait, on fait des tests à côté pour savoir comment ça va répondre au fil ou est-ce que je dois utiliser un autre médium pour ça. Et le principe, c'était quand même travailler de la matière, puisque on parle de matière, que ce soit la terre, le poème parle de matière en général.
Et vous avez mis combien de temps pour ce travail ?
Alors, en volume temps, je ne peux pas parler de volume travail parce que c'est sur pas mal de choses, mais on va dire sur 6 mois.
6 mois.
Ouais.
Comment vous en êtes arrivé justement à créer ce genre de livre ? Depuis combien de temps vous faites ça ?
J'en suis venue à faire ça sans savoir que ça existait comme discipline artistique. J'ai fait un DNAP à Tourcoing. Dans tout ce que j'exposais pour le diplôme, j'avais fait un livre d'artiste sans savoir que c'était un livre d'artiste suite à une exposition de Robert Filliou où j'avais découvert ses livres et je trouvais ça super. C'était vraiment génial entre cette forme très classique du livre et le détournement qui en avait été fait et que ça donnait autre chose qu'un livre. Et donc j'ai eu ce diplôme avec les félicitations du jury juste pour cet objet. J'ai laissé tomber parce qu'en fait on ne nous apprend pas en école d'art les livres et que bon ben voilà, c'était cet objet-là que j'avais fait parce que ça répondait à ce que je voulais dire. Et plus tard, j'y suis revenue suite à un stage de reliure que j'avais fait avec Guillaume Cassard. Et je dis, mais en fait, oui, il y a tellement de choses à dire avec ce type de livre qu'il y a autant de possibilités qu'il y a de personnes et de propos à dire.
Vous regrettez un peu que justement ces écoles d'art n'apprennent pas à travailler ces livres de cette façon ?
Bah, à la fois, on ne peut pas l'enseigner, le livre d'artiste. On peut enseigner des techniques. Qu'il n'y ait pas d'école dans le sens, voilà, le style qui convient, tant mieux, parce que sinon ça brimerait les choses. Ouais, et je pense, tant mieux. Ouais, ouais. Par contre, qu'il n'y ait pas de visibilité autre que ce type de biennale, franchement, je trouve ça dommage. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, mais il n'y a que les initiés qui connaissent en fait, ces endroits-là. Et il y a certaines structures qui cherchent à faire connaître, mais c'est vrai que c'est tellement peu connu que les gens, ils entendent livre plutôt que livre d'artiste, et même livre d'artiste, certains entendent monographie aussi. Donc, non, c'est pas une monographie, le livre d'artiste. Donc, il y a un travail, effectivement, à faire pour émerger cette discipline auprès du public.
Luc Brévard est à l'initiative de cette biennale qui fête ses 10 ans. Il est également membre fondateur des Ateliers de la Halle qui propose un outil performant au service de la création permettant tout type d'édition d'art et soutiennent la création contemporaine en région Nord-Pas-de-Calais. Ils sont les seuls à développer ce travail spécifique. Je l'ai rencontré après l'inauguration et la remise des prix pour en savoir un peu plus sur cet événement mais aussi sur le livre d'artiste.
Comment vous avez réussi à collecter tous ces livres et ces livres d'artistes sur deux expositions, hein, puisqu'il y en a une à l'Hôtel de Guignes et une aussi qui se passe à la médiathèque. Et donc, comment vous avez réussi à rassembler tout ça ?
Ben, c'est un long, long travail. C'est une obstination depuis 20 ans à travailler autour du livre d'artiste à Arras. Cette biennale est la 10e biennale. Donc les réseaux se créent, se tissent, et puis à un moment, ben voilà, on fait appel aux artistes et tout le monde répond. Donc des livres arrivent de toute la France, de toute l'Europe, et puis là on découvre, on ouvre les cartons et on met tout ça en œuvre et en espace pour le public. Et pour, voilà, c'est un travail qui n'est pas du jour au lendemain, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. C'est 20 ans de travail qui tous les deux ans maintenant aboutit à cette installation. Là, on a près d'un millier d'ouvrages à la médiathèque, une somptueuse exposition entre patrimoine et collection contemporaine de Julien Martial. Bon, voilà, c'est le fruit d'un travail et aussi d'une bonne relation avec les artistes, de vraiment où tout le monde s'investit, tout le monde a envie que ça existe, quoi.
Lors de cette biennale, il y avait 3 prix qui avaient été remis. Vous pouvez peut-être nous en parler un peu et rentrer un peu dans les détails pour expliquer un peu aux auditrices et auditeurs quels sont les prix et pourquoi les remettre.
Alors les prix ont été initiés, il y a donc 3 biennales, hein, c'est la 3e biennale sur laquelle on remet des prix. Il y a le prix du savoir-faire, le prix de la création, et souvent on rajoute un prix spécial sur un coup de cœur ou sur quelque chose comme ça. Le prix du savoir-faire va récompenser une œuvre plutôt de bibliophilie, et sur laquelle on va mettre en avant une maîtrise technique particulière. Là cette année ce sont les éditions de la Goulotte, qui ont une maîtrise de gravure, de typographie, ce qui est très rare. La typographie, bon, sont des plans fondus, plus souvent utilisés, mais là, sont des gens qui gravent eux-mêmes leur bois et leur lino pour faire leurs typos, qui sont très originales, mais qui sont d'une maîtrise technique, parce que voilà, le geste ne peut pas se rater, quoi. Voilà. Donc là, un très beau savoir-faire et très original. Le prix de la création récompense cette idée de création, comment au travers du livre on peut créer, en dehors justement des codes, comment soit sur la transgression des codes, soit sur l'innovation ici et là. Et là cette année en fait c'est carrément autre chose qui a été récompensé, c'est le centre de la Pommeraye qui est un centre psychiatrique et qui mène un travail d'art-thérapie avec ses internés qui est hallucinant, quoi. Et quand on parle d'art brut, il y a tellement d'artistes qui en fait parlent d'art brut alors qu'ils ne sont pas des art brutistes, ce ne sont pas des aliénés. Et là on a vraiment affaire à des gens qui ont ce problème de santé, quoi, et qui vont résoudre certains moments, qui vont en fait donner du sens à leur vie au travers de la réalisation de livres. Et c'est hallucinant. Et d'ailleurs, personne n'a été trompé là-dessus. C'est l'unanimité du jury à voter pour eux. Et en plus, au moment de la remise des prix, tout le public a applaudi parce qu'il y avait. Oui, c'est tellement génial, quoi. Et c'est tellement incroyable le travail que font ces gens, quoi. Donc on a voulu récompenser ça. Et on a récompensé aussi un prix spécial du jury à Cyprienne Kemp, qui est une artiste lilloise, qui fait un travail vraiment d'une finesse, d'une intelligence, d'une subtilité. Donc on n'a pas voulu passer à côté de ça, quoi. Mais après, il suffit de venir voir l'expo, on aurait pu récompenser tellement d'ouvrages, quoi, tellement il y a une qualité incroyable, quoi.
Dans cette expo, est-ce qu'il y a des choses qui sont vendues ?
Ah oui, la majeure partie, 90% des ouvrages sont à vendre. C'est aussi les artistes. Pour faire un deuxième livre, il faut vendre le premier, en fait. Vendre, c'est quelque chose qui permet de continuer, quoi. C'est pas pour vivre, hein, on vend pas pour vivre. Un artiste qui vivrait de son art, ça existe dans les magazines, à la télévision, mais sinon c'est très compliqué. Mais vendre, c'est surtout pouvoir continuer. Et là, donc, les ouvrages sont à vendre parce qu'ils vont permettre de continuer. Alors, il y a tous les prix. Hein, ça va de 1,50 € les premiers ouvrages, à quelques milliers d'euros pour des ouvrages plus prestigieux. Donc, chacun peut trouver son bonheur, repartir avec son petit livre d'artiste et peut-être commencer une petite collection, comme ça. Au fil des 20 ans, on s'est rendu compte que des Arageois se sont formés au regard du livre d'artiste et ont constitué une collection. Et maintenant, on a des acheteurs réguliers. Voilà, la première année, on met 10 €, la deuxième, 50. Et puis, un jour, on ose mettre 200-300 € pour un ouvrage. Quoi.
Cyprienne Kemp, tout à l'heure, me disait justement que ce côté livre d'artiste n'est pas assez reconnu, n'est pas assez mis en valeur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bon, on sait que vous, à travers votre biennale, évidemment, vous le mettez sur un piédestal, mais est-ce que vous pensez que ça devrait devenir un peu plus populaire ?
En fait, quelque part, c'est populaire, dans le sens où les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais par exemple, toute l'évolution du livre de l'édition jeunesse, à partir des années 80, a évolué grâce aux artistes. On était dans le livre illustré, hein, un texte et des images, souvent en plus très gnangnans. Et ce sont les artistes qui ont fait évoluer le livre jeunesse, avec les pop-up, avec les flipbooks, avec tout un tas de formes et de créations. Et ça fait que maintenant, le livre d'artiste, sans qu'on s'en rende compte, est déjà présent dans 80% de l'édition jeunesse. Et des artistes donc arrivent à vivre, à créer ici et là. Après, le livre d'artiste tel qu'on le défend, nous ici, tous les possibles du livre, bien évidemment, on aimerait que ce soit plus présent, mais bon, ça reste aussi des productions à marge. Donc c'est sur des actions comme les nôtres qu'on va essayer de multiplier, sur l'accueil d'artistes, qu'on va essayer de faire évoluer les choses. Mais bon, dans le monde actuel, c'est pas simple. Apprendre à regarder, apprendre à aimer des choses alors qu'on est dans le tout rapide, le tout de suite. Voilà. Il faut savoir qu'on n'a jamais autant imprimé de livres depuis l'aube de l'humanité actuellement, mais on n'a jamais autant jeté de livres au pilon. Donc, en fait, dans l'édition classique, on imprime un livre, si au bout de 3 semaines, il n'a pas trouvé son public, il part au pilon. Alors qu'à la Renaissance, un livre avait à peu près 150 ans de temps de vie. De temps de vie d'actualité, quoi. Après, il rentre dans les pattes. Ouais. Maintenant, même pas 3 semaines. C'est quand même incroyable, quoi. La vitesse, comment le temps change, le rapport au temps change. Donc, nous, on défend peut-être des immobilités ou des moments figés comme ça, mais des petits moments merveilleux, quoi, en même temps.
Dernière question concernant vos nouveaux ateliers, les ateliers de la Halle, votre nouveau lieu. Alors, comment vous y sentez ? Qu'est-ce qui s'y passe maintenant ?
C'est un lieu déjà de plein pied, donc ce qui est merveilleux pour nous. Et il y passe énormément de choses parce que vraiment, le lieu, on s'y sent hyper bien. On a produit là, sur la première année, autant qu'on a produit en 10 ans au Quai de la Batterie à l'Hôtel de Guine. Parce que le lieu est fonctionnel, parce que le lieu invite vraiment à la création. C'est une lumière aussi plein nord qui est magnifique. Et toutes les machines sont là de plein pied. Donc on produit de l'estampe, on produit du livre. On a reçu déjà 2000 enfants qui sont venus imprimer. Donc vraiment, là, on s'y sent super, super bien. Et on arrive à développer une action beaucoup plus importante sur l'éducation à l'image, sur la production et sur l'accueil d'artistes. Quoi. Ici, à l'Hôtel de Guine, c'était bien. On a eu de belles aventures, mais c'était plutôt des aventures d'exposition, de prestige, quoi, entre guillemets. Là, on retrouve vraiment notre vocation d'artiste et notre temps de création. Quoi.
Terminé, place à l'invité d'honneur de cette biennale, Julien Martial, relieur et auteur de l'exposition visible à la médiathèque d'Arras. Il nous parle entre autres de son travail de relieur.
Martial, pouvez-vous nous expliquer un petit peu le concept de cette expo ?
Alors, cette exposition, elle a été réfléchie en fait en conversation entre le fonds patrimonial de la médiathèque Saint-Vaast et ma collection personnelle de livres d'artistes qui se compose de pièces achetées au fur et à mesure des années, de pièces que j'ai réalisées sous mes propres éditions et de reliures que j'ai réalisées ou que j'ai achetées aussi. Voilà, c'est un panel qui tourne surtout autour de l'objet livre, tout ce qui est reliure et l'évolution de la reliure en fait, on va dire du 12e à aujourd'hui, quoi.
Vous êtes vous-même relieur, vous avez grandi avec la reliure. Vous pouvez me parler de cette évolution, comment vous la voyez, vous, depuis toutes ces années ?
Moi, depuis, on va dire, depuis 20 ans, j'entends que le livre est mort. C'est la fin du livre. Pour moi, 20 ans sur l'histoire du livre, c'est dérisoire, parce que quand on commence à voir des reliures du 12e siècle, ça fait quand même pas mal de temps que ça existe. Après, je pense que le livre va changer de visage. Effectivement, la reliure traditionnelle des grands-parents sur un petit missel ou même des grands textes va peut-être disparaître, va sûrement disparaître parce que le système de lecture va changer de support en fait. Mais il reste aujourd'hui un vrai travail sur le papier, sur la forme, sur les techniques d'impression, sur les typographies qui s'orientent plus vers l'artistique, donc vers le travail avec les artistes. On va dire que la forme change, mais pas le fond, en fait.
Est-ce que c'est toujours des bases classiques ou il y a vraiment des choses avec l'évolution qui ont apporté des choses nouvelles pour les relieurs ?
Alors, justement, c'est ça que je veux démontrer dans l'expo. Enfin, je voulais montrer plutôt que démontrer. C'est qu'en fait, on n'invente rien. Tout a déjà existé. Et c'était la discussion que j'ai eue hier soir avec quelques personnes qui me disaient « Mais tu peux nous expliquer ?» Et en fait, il y a une évolution des matériaux. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a du plexiglas, de la résine, moult matériaux qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a un siècle, ou deux siècles, ou trois siècles. Mais on n'invente rien, on réadapte des techniques anciennes qui sont de la couture. Alors on ne fait pas passer le fil pareil, on n'utilise pas le même fil, des systèmes de charnières. Mais tout a déjà existé et heureusement, tout est en perpétuel mouvement et réadaptation. Quoi.
On connaît maintenant les techniques de lecture aussi qui changent avec l'arrivée des tablettes et de l'informatique, notamment des liseuses. Est-ce qu'on pourrait éventuellement penser qu'un jour vous allez justement créer artistiquement des sortes d'œuvres avec ces tablettes ?
Alors moi personnellement non, parce que je ne suis pas artiste, je travaille sur le livre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, à mon atelier, j'ai fait, il y a, on va dire, une dizaine d'années, une reliure pour mettre une tablette dedans. Et c'est marrant comme la tablette qui était l'ennemi juré du livre finit aussi dans un atelier de reliure parce qu'en fait, les gens se disent « Bon, ok, c'est beau, c'est pratique, mais c'est pas beau parce que c'est en plastique. J'aimerais bien quand même une petite couverture en cuir parce qu'en fait, ça ramène quelque chose. » Et du coup, ça tombe encore chez moi pour faire une espèce de petite reliure pour mettre une tablette, pour mettre un iPad, pour mettre... Bon. Et c'est un espèce de paradoxe toujours intéressant. Et je pense que l'évolution du travail, il est là-dedans. Enfin, il est là-dedans. Il est en utilisant les techniques anciennes qu'on a, le savoir-faire qu'on a, à l'utiliser pour les nouveaux supports, en fait.
Alors, si on vient à l'expo, est-ce que vous avez des thèmes que vous avez préparés exprès ? Qu'est-ce qu'on peut y voir exactement sur cette expo ?
On peut voir, par exemple, la vitrine du centre, c'est vraiment le livre avec un trou, par exemple. On est parti d'un livre qui a été utilisé pendant la guerre pour se protéger des balles, donc qui a pris une balle. Et donc, c'est une reliure 18e, très classique, mais avec un trou de balle dans le dos. Et en fait, c'est intéressant. Enfin, ce qui nous a fait flasher avec Luc tout de suite, c'est qu'en fait, les artistes ont utilisé ce système-là sans forcément avoir vu cet objet, mais on l'a mis en interaction avec, par exemple, une œuvre de Fontana qui a perforé ses toiles en lacérant ou avec des trous de balles. Point blanc qui a tiré à travers un livre. Voilà, et c'est montrer cette corrélation en fait entre des pièces anciennes et des pièces récentes. Après, on a des choses qui sont peut-être un petit peu plus techniques, comme la reliure de Louis, aux armes de Louis XIV, où on a sorti cette pièce parce qu'elle est majestueuse et grandiose et extrêmement représentative de la reliure traditionnelle, c'est-à-dire en plein marocain, avec une très belle arme dorée, des fermoirs en argent. Et comme quoi cette composition classique est encore utilisée aujourd'hui avec le premier plat, avec le titre ou une image sur le premier plat, ces systèmes de fermoirs de livres utilisés autrement sur d'autres systèmes de reliure. Voilà, chaque vitrine, il y a une vitrine sur les reliures en tissu, qui est une reliure du 15e, utilisée aujourd'hui avec des nouveaux tissus, des feutres, utilisés avec du papier. Il y a une vitrine sur des systèmes de liens en parchemin qui sont utilisés aussi autrement aujourd'hui sur des choses beaucoup plus contemporaines. On a réfléchi autour de ça, mais chacun, je pense, peut trouver le lien entre les différents objets et surtout, enfin, un petit peu pour ouvrir la curiosité des gens, en fait. C'est un petit peu le but, quoi. De dire, regardez les vieilles pièces, elles sont splendides, et regardez aussi les pièces récentes, elles sont splendides. Il y a des choses partout à fouiller. Dans mon atelier à Paris, je travaille vraiment avec beaucoup d'artistes, beaucoup de choses, des projets complètement farfelus, des fois, qui utilisent du papier, du carton, du cuir, de la dorure. Bon.
L'œuvre la plus difficile que vous ayez eu à réaliser?
La magie de ce travail, c'est que chaque œuvre, on a une espèce de réflexion à faire autour, en se disant, ok, je connais les techniques, mais comment je vais les mettre chronologiquement, parce que d'un coup, il va falloir changer la chronologie des façons de faire. Il y a un petit livre qui s'appelle Hermout, qui était la signature de Marcel Duchamp sur son fameux urinoir, avec un ami qui a écrit un texte là-dessus, et j'ai fait un petit livre en céramique. Et pour le coup, c'est peut-être le livre où je me suis plus cassé la tête pour arriver à quelque chose qui a l'air simple. Et en fait, toujours les choses les plus simples qui sont les plus complexes à mettre en place. Et là, c'était vraiment des matériaux que je ne maîtrisais pas, et trouver des solutions techniques pour que le livre soit fluide et ait l'air simple.
C'était un sujet autour de l'expo Livre à voir, qui est au centre de la 10e Biennale du Livre d'Artistes organisée par les Ateliers de la Halle et qui se déroule jusqu'au 26 avril à l'Hôtel de Guine et à la médiathèque d'Arras. En marge de cet événement, la médiathèque d'Arras accueillera les Ateliers de la Halle avec ses presses les 15, 18, 22 et 25 avril pour 4 rendez-vous créatifs ouverts aux enfants. Au programme, la réalisation de livres d'artistes, bestiaires, médiévaux, inspirés des collections du Fonds patrimonial. Plus d'infos et renseignements sur le www.ateliersdelahalle.fr ou par téléphone au 03 21 16 33 90, mais aussi à la médiathèque d'Arras au 03 21 71 62 91.